première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Par oui dire.
Art nouveau belge. Palais des Beaux-Arts, Bruxelles. Établissement Yoda, Liège.
Il y a 2 ou 3 ans, j'ai eu un coup de téléphone de Jonathan Mengelings qui m'a dit avoir acheté une salle à manger de Victor Horta. Je n'en croyais pas mes oreilles, je suis allée la voir. Et j'avoue avoir eu les larmes aux yeux parce que j'ai vu comment Horta avait évolué, comment il avait terminé sa carrière comme créateur de meubles, comment il était passé de la forme ronde, d'une forme assez voluptueuse, assez sensuelle, à quelque chose de beaucoup plus sec, de beaucoup plus acéré.
Art nouveau belge, vers l'idéal. Ouvrage paru avec Jonathan Mengelings et Françoise Aubry.
Quand on regarde cette chaise de la salle à manger, au lieu d'avoir ces jeux de plissures dans le dossier, on a toute une série d'encoches qui ponctuent la silhouette du dossier. Au lieu d'avoir des entretoises sophistiquées, il y a juste une courbe avec 3 incisions dedans. Il reprend sur la ceinture du siège un ensemble de moulures qui se termine en bec, comme il a pu le faire dans son architecture. Mais on voit comment il veut d'une certaine manière damer le pion à ceux qui étaient à la mode à l'époque, alors que son style apparaissait à la limite tapageur et trop luxueux. Il revient à une forme de simplicité qui on peut comparer aux meubles de Hobé, aux meubles d'Antoine Pompe, aux meubles de la deuxième génération des créateurs de l'art nouveau. Et pendant des dizaines d'années, je m'étais toujours demandé comment il se positionnait par rapport à la jeune garde de l'art nouveau. Et ce mobilier montre comment il a réfléchi à ce que le public et à ce que la jeune génération imaginait être un meuble moderne. Les siens, ceux de l'époque des années 1890, ne l'étaient plus au moment où il crée cette salle à manger. Elle raconte la fin d'une histoire et une autre histoire. Donc ça m'a vraiment passionnée.
Le monde invisible est une émission de Thierry Génicaud. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques. Je vais rencontrer Françoise Aubry. Mm-hmm. Qui est-elle ?
C'est l'ancienne conservatrice du musée Horta. Elle a énormément travaillé sur Victor Horta. Elle a écrit beaucoup de livres et c'est une figure incontournable sur ce sujet.
Et si vous le permettez, hier j'ai encore pesté, mais vraiment, parce que je suis passée devant la très jolie maison de Rosenbaum qui est rue Feder. Elle est dans un état pitoyable, elle est classée. Nous sommes à une époque où on croit que l'art nouveau est protégé et sauvegardé, et ici c'est une maison qui est en train de tomber en ruine. C'est trop dommage. Je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais il faut trouver une solution. Pour un bâtiment comme celui-là, les châssis pourrissent, les ferronneries rouillent, c'est d'une tristesse absolue.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Des places de Belgique.
Les Kaliski.
Mon œuvre.
Allez, on s'inquiète.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture,
authentique, me tento, me tente, stélé.
Le monde invisible.
Jonathan Mengelings, je suis collectionneur depuis une dizaine d'années d'art nouveau belge.
C'était très gai de travailler avec le collectionneur et avec Boris Delobe parce que je suis un peu blanchie sous le harnais de l'art nouveau. Et ici, ce sont des jeunes gens qui sont passionnés par l'art nouveau. Et donc, on a eu des belles discussions autour de ma table de cuisine et des discussions parfois acharnées autour de l'attribution de l'une ou l'autre pièce. Et pour moi, ça m'a ouvert des horizons parce que le regard de quelqu'un qui collectionne n'est pas le même que celui de quelqu'un qui conserve. Ce sont deux approches différentes Et Jonathan a un œil extrêmement pointu, mais qui il tomberait dans les pommes devant certaines pièces de l'Art Nouveau. Il ne faut pas du tout lui parler de chandeliers supportés par des jeunes femmes aux cheveux dénoués avec des fleurs. Ça, ce n'est pas du tout son genre. Il cherche dans l'Art Nouveau le côté plus architecturé, le côté abstrait et le côté le plus construit qui finalement, pour revenir à votre question de tout à l'heure, qui anticipe le design. Mais les afféteries de l'Art Nouveau, c'est très peu pour lui.
Avant de collectionner l'Art Nouveau belge, je collectionnais l'Art Nouveau européen, Art & Craft, Wienerwerkstatt, viennois. Je ne me posais pas trop de questions, je suivais en fait la mode. Un jour, je suis tombé sur une paire de chenets, assez étrange, et c'est là que je me suis tourné vers l'Art Nouveau belge, parce que intrinsèquement, leur forme m'intéressait. Je me suis documenté sur ce sujet parce que ma bibliothèque était fort axée sur l'Europe et pas seulement sur la Belgique. À ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en achetant les livres sur l'Art Nouveau belge, les livres étaient axés sur seulement l'architecture et pas les arts appliqués.
Quand on ouvre l'ouvrage en question, Françoise Aubry, le sous-titre m'intéresse, vers l'idéal. Vous entendez quoi ?
Mais c'était le titre d'une grande peinture qui figurait dans la présentation des meubles d'Horta à l'exposition de Turin en 1902. D'abord parce que Horta aimait beaucoup Émile Fabry, qui était l'auteur de ses peintures. Il aimait les idéalistes plus que les symbolistes ou les post-impressionnistes. Les créateurs de l'Art Nouveau partageaient un idéal qui était celui d'apporter de l'art dans tout. Et si c'était possible pour tous, mais c'est un idéal qui n'a été accompli finalement que par Gustave Serrurier et Bovy à Liège et encore tardivement à la fin de l'Art Nouveau vers 1904-1905 quand il a créé du mobilier pour des maisons ouvrières.
Le créateur de ces chenets, et c'est Paul Ancard, pour moi c'était extraordinaire et du coup je voulais absolument trouver d'autres pièces de cet artiste et surtout de Victor Horta et d'autres.
La perte de l'ornement et le plaisir du détail sculpté. On trouve aujourd'hui encore d'extraordinaires ébénistes, mais il n'est plus dans le goût des gens de pousser un ébéniste à décorer, par exemple, de volutes, d'arabesques, ou même de motifs animaliers ou de figures humaines, un meuble. Aujourd'hui, il n'y a plus personne à qui ça viendra l'idée. Donc, les créateurs de l'Art Nouveau, comme ceux du rococo, comme ceux du gothique, avaient un plaisir du détail fouillé et de l'ornement qui n'est plus. Or, ça permettait aussi à l'artisan d'affiner et d'aller le plus loin possible dans son art. Si vous ne le stimulez pas, il n'y a pas de raison qu'il approfondisse son art. Les architectes comme Horta ou comme Ancard connaissaient très très bien toutes les possibilités des savoir-faire des artisans. Ils leur demandaient peut-être conseil, mais au bout d'une ou deux commandes, là, il y avait certainement une confiance qui s'établissait et Horta savait que ses dessins extraordinairement et ses maquettes de détails de mobilier extraordinairement fouillés seraient reproduits à la perfection.
Art Nouveau belge, vers l'idéal. Ouvrage paru avec Jonathan Mangelings et Françoise Aubry.
À la fin du 19e siècle, il suffisait de mettre dans un contrat avec un corps de métier effectué selon les règles de l'art. Regardez un cahier de charges maintenant d'un architecte, ce sont des volumes pour détailler toutes sortes de choses qui avant étaient dans le cerveau et dans les mains des artisans, de ceux qui allaient exécuter. Les règles de l'art étaient un mot qui suffisait pour définir la qualité d'un travail. Je reviens encore à Horta. Pour moi, les plus jolis objets créés par Horta, les plus réussis, ce sont ceux qui sont dérivés d'une partie de l'architecture, la ferronnerie. On sait que Horta a introduit dans la maison bourgeoise les ferronneries industrielles, fabriquées industriellement. Et à partir de ce savoir-faire, de ce qui était partie de l'architecture, il a décliné des objets, et ceux-là ont une grâce et une maîtrise incomparables. Il est vraiment parti des métiers de l'architecture. Et comme il le dit aussi, à un moment donné dans ses mémoires, il a dessiné ses meubles comme ses architectures, avec des consoles, avec des supports, avec des suspensions. Et on voit vraiment que c'est la logique de l'architecture qu'il a transposée dans le mobilier. Mais à côté de ça, effectivement, il y avait de nouveaux matériaux, comme le verre américain, qu'on n'arrive plus à fabriquer aujourd'hui, et qui permettait d'avoir des vitraux qui laissaient passer la lumière, qui changeaient de couleur et qui filtraient la lumière naturelle et qui donnaient des coloris à l'intérieur des maisons tout à fait étonnants. Et ça, c'était un apport de la fin du 19e que l'on doit à des Américains qui ont créé ce type de verre qu'on appelait d'ailleurs chez nous « verre américain ». Donc Horta est probablement à nouveau un des seuls à l'avoir utilisé sur de grandes surfaces. Et dans le livre, vous avez un vitrail de Horta tout à fait inconnu qui est composé de morceaux de verre américain, absolument magnifique.
Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, Sophie Lowers, Yves Zustrasse jusqu'au 12 janvier, avec Yves Zustrasse et Olivier Keplin.
Depuis la grotte de Lascaux, cette flux de peinture qui vient jusqu'à aujourd'hui, et donc... Je ne crois pas que les tables rases puissent durer pendant très longtemps. Je crois que la table rase arrive à un moment, peut-être quand il y a une crise, quand il y a eu un amollissement, quand il y a eu des complaisances. À ce moment-là, en effet, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit, ou un groupe, il faut tirer la nappe et on va remettre un autre couvert. Mais la chose ayant été faite, on ne va pas, en claquant dans ses doigts, faire que la peinture et la question de la création ne se posent pas depuis des millénaires. Et je crois qu'un peintre, c'est quelqu'un qui, évidemment, pense avec des actes, et que ces actes ont une histoire. Ces actes, il en recueille à chaque fois des éléments pour que lui-même puisse faire son acte. Donc ce flux de peinture qui commence, voilà, des millénaires, eh bien, ça charrie des noms jusqu'à, par exemple, aujourd'hui, l'atelier d'Yves Zustrasse.
Quand j'ai vraiment commencé à écouter du jazz, je vais en avoir 28, parce que j'étais passé de la période Woodstock, Jimi Hendrix, Janis Joplin, et puis après le Berg, Schoenberg, Bartok, les derniers quatuors de Beethoven, et puis j'ai fait tout un chemin avant d'arriver au jazz. Puis je suis mis à la musique répétitive, que j'ai adorée, avec Terry Riley, qui était mon préféré.
Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, Yves Zustrasse jusqu'au 12 janvier.
Quelqu'un qui passe distraitement dirait c'est un peintre abstrait. Oui, mais si on regarde bien, c'est un peintre complètement passionné et qui en a tiré des éléments de son langage, de Fernand Léger ou de Liechtenstein.
Il y avait Terry Riley, il y avait Steve Reich qui était très important. Et puis après ça, j'ai peint dans la nature, quand j'étais dans le sud de la France, dans la forêt des morts. Et puis je me suis mis au jazz. J'ai commencé et puis je n'ai plus arrêté. Et maintenant, le jazz a pris tout mon univers.
Alors Yves Zustrasse, vous évoquez la présence, personnalité d'Olivier Keplin.
J'ai fait une exposition en 2001 chez Reynos Xipas, qui est une galerie à Paris. Et il m'a présenté Olivier, qui a écrit un texte, très beau texte à l'époque, pour le catalogue de l'exposition.
Comme entre guillemets John Cage, Yves Zustrasse n'a à répéter, connaît ce qu'il fait, comme John Cage connaissait la musique extrêmement bien.
Être accompagné par Olivier Kaeplein, c'est pas rien, parce que bon, intellectuellement, c'est quelqu'un qui a beaucoup vu, qui a beaucoup voyagé, qui a une expérience au niveau de l'accrochage, au niveau de la conception, au niveau j'étais pas seul, et c'est très enrichissant.
Il porte toute cette mémoire de la peinture qui fait surgir son propre lexique, sa propre grammaire forte, toute cette humus, on va dire.
Ce sont toutes des huiles extra fines, et moi je suis comme une fourmi, et tout ça est daté, noté, et je suis... J'ai toujours peur de manquer, à mon avis ça doit être un souvenir des vaches maigres. Je sais pas, j'ai toujours besoin d'avoir... J'ai toujours tout ce qu'il faut sous la main, c'est un peu... Comme ce sont des peintures qu'il faut 3 mois quand on achète en gros, donc j'ai toujours, quand dès qu'il y a un tiroir qui est un peu vide, je le re-remplis. En fait, ça est très organisé, c'est vrai.
Et après ça, il y a quelque chose qui se compose avec la volonté très marquée d'une construction. S'il y a destruction, il y a destruction peut-être une manière de défaire le langage de personnes qu'il admire. Il a une position presque conceptuelle, il désassemble, il défait, il déconstruit, mais pour absolument poser après la construction comme quelque chose d'important.
Dans chaque marque donne des noms, ils ont une tendresse pour les noms. Donc chaque marque, ça c'est une marque belge. Ça c'est la marque belge qui bloque, en fait, Salvatore Dali, Frank Stella, ils venaient tous à Terroigne, tout près de Huy. Et ça, c'était l'arrière-grand-père de Bloch's. Il vendait beaucoup aux impressionnistes. C'est devenu un de mes amis. Malheureusement, maintenant, il vient de vendre à une autre personne que je ne connais pas encore très bien, mais qui vend toujours. C'est une marque belge, c'est extraordinaire. C'est fantastique.
2 expositions d'architecture et 2 expositions de peinture. Y a-t-il un lien qui unit ces mondes ?
Déjà, bon, parce qu'ils sont tous ensemble dans le Palais des Beaux-Arts, mais l'exposition de Yves Zurstrassen, quand on la visite, on voit quand même aussi que Yves Zurstrassen, qui est un peu comme Keith Haring, va utiliser beaucoup de références de l'histoire de l'art dans son œuvre. Keith Haring qui travaille quand même aussi beaucoup avec un signe, avec un trait, Zurstrassen aussi.
Moi j'aime l'odeur de térébenthine.
Olivier Kaeplein.
Et la vue est une chose capitale. Moi je pense par la vue, je m'en suis rendu compte tout simplement. J'ai toujours eu un rapport un peu... contradictoire, voire parfois difficile avec le langage. Donc évidemment, la peinture est quelque chose de formidable parce que la peinture empêche le langage de continuer à dérouler au moins son savoir. Après, naturellement, le langage reprend sa course puisque nous sommes des êtres de langage. Mais il y a d'abord ce moment où moi j'ai souvent comparé le dispositif du tableau comme quelque chose qui vous met devant un trou. Trou noir ou trou comme on veut, et où on va être obligé de vivre ce qui se passe dans ce vide-là. Alors, en ce sens, on retrouve John Cage, et ce qui est un rapport entre soi et la présence du tableau.
Le noir de Mars, c'est une couleur que j'adore. Le noir de Mars, c'est l'oxyde de fer. Ça, c'est une couleur absolument extraordinaire.
Yves Lustrasse.
Tous ces noirs-là qui sont un peu ni mat ni brillants, mais légèrement brillants, c'est du noir de Mars avec le médium flamand. C'est un noir que j'adore, le noir de Mars. C'est très résistant, c'est assez chaque cœur. Enfin bon, c'est parce que bon, chaque peinture a une significativité différente, en fait.
Je pense que le rapport à l'art et au tableau est avant tout une histoire de relations interpersonnelles. Bien sûr, il y a l'histoire de l'art, bien sûr, il y a la sociologie de l'art, etc. Mais fondamentalement, l'art, je ne parle pas de la circulation des objets d'art, ça c'est autre chose. Je parle de l'art, c'est une histoire de relations interpersonnelles. Donc ce vide, cette espèce de sentiment, en tout cas de trou, se passe devant, et tout d'un coup, on se rend compte que notre seule corde de rappel, c'est la vue qui pense pour nous.
Et Keith Haring d'ailleurs aussi parle jazz, hein, pas uniquement le hip-hop, mais c'est vrai que tous les deux, ils ont besoin de cette musique qui va vraiment rythmer leurs gestes, qui va rythmer la manière dont ils vont peindre. Et comme le travail de Keith Haring peut être vu comme très musical, hein, très rythmé, on voit même parfois des petits traits qu'on sent presque un beat derrière. Et sur sa scène, c'est complètement pareil. Lui, c'est surtout le jazz, mais qui va vraiment faire que ses compositions vont être rythmées d'une façon très musicale.
C'est une science, la peinture à l'huile, c'est extraordinaire. On n'a jamais fini de trouver des possibilités. Non seulement c'est étiqueté, mais chaque fois il y a ce que la couleur donne dans les différentes compositions. C'est beau, la peinture à l'huile.
Kittering, c'est un être très physique quelque part. Dès le début, on voit qu'il va utiliser comme support des choses complètement différentes quand on va traditionnel comme un artiste peintre. Il va utiliser, par exemple, à New York, il va aller souterrain, il va utiliser les métros et les palissades comme support. Il était fort proche de Madonna, hein, de nouveau cette scène musicale Madonna, mais aussi Grace Jones, et on va voir qu'il va vraiment aussi à la demande des artistes, c'était vraiment une collaboration entre les deux, qu'il va peindre leur corps effectivement.
À Cross jusqu'au 26 janvier avec Sophie Dequeigny et Lisa de Vichère.
Au-delà de seulement vouloir construire, ils ont quelque chose à raconter. Ils cherchent aussi à donner des réponses à toute une série de questions très très actuelles, qui sont des questions climatiques, des questions économiques, des questions sociétales. Et donc les jeunes bureaux sont très très conscients du contexte dans lequel ils vivent aujourd'hui. On choisit aussi des bureaux qui sont très conscients du fait que la mission d'un architecte est beaucoup plus que seulement construire ou de faire un bâtiment, mais il s'agit de faire un lieu dans lequel on peut vivre, on peut habiter, il y a toute une série de choses qui peuvent s'y passer, mais surtout aussi un lieu qui cherche à inclure, à intégrer, à faire des liens entre différentes partie de la population, par exemple, entre intérieur et extérieur, entre culture, entre convictions, etc.
À Cross jusqu'au 26 janvier.
Voilà, le Palais des Beaux-Arts essaye quand même beaucoup de toucher à cette notion de laboratoire, de ville, d'expression, étant donné que le bâtiment lui-même est comme une petite ville, comme un petit laboratoire ou un grand laboratoire en soi.
Qui est un palais d'ailleurs fait par l'architecte Horta.
Oui.
Quant à ce qui se passe à la galerie Ravenstein, à Cross, qui est produit par
A+. Oui.
Les 8 projets rassemblent le fait que les architectes qui ont fait les projets, pour eux, c'était la première fois qu'ils étaient invités par une organisation culturelle professionnelle, comme Beaux-Arts, l'Institut de l'architecture de Flandre et A+, 3 organisations, pour montrer à un grand public leurs projets. Pour ces architectes, c'est très important parce que la majorité des jeunes architectes s'occupent de chercher des projets, de réaliser des projets. Mais en fait, une invitation comme ça leur oblige de réfléchir sur les lignes rouges de leur travail, les attitudes de comment intervenir dans l'espace, comment faire des projets.
Exemple sociétal, par exemple, je pense à le bureau qui s'appelle West Architects, qui aujourd'hui travaille sur plusieurs projets de théâtre. Donc il y a le théâtre Jean Villard à Louvain-la-Neuve et il y a le Rideau de Bruxelles. Deux projets qui sont en cours.
Lisa de Vichère.
Et qui ne cherchent pas uniquement de trouver des solutions techniques pour qu'un théâtre puisse y avoir lieu, mais où la question c'est de comment donner accès à ce théâtre, non seulement un accès physique mais aussi un accès mental qui fait en sorte que la culture puisse être ouverte à tous, qu'on peut aussi amener la ville dans le théâtre, amener l'espace public dans le théâtre, se poser des questions qui sont, à mon avis, tout à fait sociétales, parce qu'on se rend compte qu'un théâtre est un lieu dans lequel, en fait, on montre le monde.
Et les bureaux sont choisis sur l'idée qu'ils sont jeunes.
Un autre exemple, quand on parle de l'écologie et aussi de l'écologie de la matérialité, des matériaux utilisés, le bureau Pernille Austin, qui ont construit une maison pour un couple, une maison en bois, La question du départ était simple, une maison pour deux personnes, voilà, pour habiter.
Et c'est une présentation de 8 bureaux d'architectes, le bureau d'architecture Agmen, Versa, Murmure, West.
Grâce aussi à une relation très privilégiée, en quelque sorte aussi, avec les maîtres d'ouvrage, ils ont fait une recherche ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire habiter ? Comment on habite et quels sont les lieux, les espaces dont on a besoin. Et donc, ils ont développé une matérialité autour de cette question. Ils ont construit une maison en bois où ils ont dessiné chaque détail, des détails assez complexes, des connexions bois-bois qui ne sont pas du tout évidents. Ils ne sont pas du tout cherché la standardisation, mais ils ont eu le courage de prendre le risque et de faire la recherche sur comment on peut construire en bois aujourd'hui un matériau qui est durable, qui est renouvelable et qui amène aussi une atmosphère presque perdue qu'ils ont réussi à ressusciter. Donc, très très beau projet à Denz, de longue haleine et qui montre une très très grande capacité technique aussi.
Justo van Kampenhout, Frederik van Donik, Wouter Willems, architecte Pernille Oostenen-Noord.
Il y a toujours la question du budget. Enfin, il y a toujours la question du budget dans n'importe quel projet. Mais évidemment, quand on construit avec l'argent public, il y a encore une autre responsabilité qui vient. Et donc, il y a Versa Architectes qui ont construit à Morlanwels un centre communal qui n'est non seulement magnifique, mais dans lequel en fait les contraintes budgétaires n'étaient pas faciles. Et où ils ont, grâce à une très grande créativité, inventivité, de faire des choix très précis au niveau de la matérialité, ils ont réussi à créer un espace qui est unique et qui amène aussi une identité en fait pour ce village. Un projet qui n'était pas facile, mais qui mérite vraiment d'être montré pour aussi convaincre des pouvoirs communaux, par exemple, qu'on peut très bien travailler avec des jeunes architectes, on peut très bien, avec un budget restreint, faire de l'architecture.
À Cross, jusqu'au 26 janvier, avec Sophie Descaigny et Elisa de Vichère.
Ils sont rassemblés dans cette exposition qui est d'ailleurs formidable quand on voit de l'extérieur puisque c'est comme une vitrine. Donc elle fait vraiment le lien entre le bâtiment, le Palais des Beaux-Arts et la Galerie Ravenstein qui va ensuite, on retrouve de nouveau Horta dans la gare centrale. Donc c'est une très belle manière de mettre littéralement en vitrine cette création de cette génération de l'architecte.
Qui viennent du nord et du sud du pays.
Qui viennent du nord et du sud du pays, tout à fait. Voilà.
Enter the modern landscape. Entrez le paysage moderne.
Jusqu'au 12 janvier, avec Franz Elkann.
Dans cette exposition, il s'agit notamment de l'étude des territoires ruraux à l'époque moderniste, c'est-à-dire courant du XXe siècle. Parce que c'est une exposition qui est issue d'une collaboration entre Beaux-Arts et un consortium d'universités qui s'appelle Modscapes, qui réunit près d'une dizaine d'universités à travers l'Europe. C'est une recherche phénoménale qui est établie depuis maintenant plusieurs années par une centaine de chercheurs à travers l'Europe, notamment sur la question de ce qu'on appelait à l'époque la modernisation des territoires ruraux. La modernisation de ces territoires ruraux ont été créées par une impulsion souvent d'ordre idéologique, politique. On l'a vu avec des régimes socialistes comme l'ex-URSS ou encore l'ex-Yougoslavie ou l'Albanie, mais également sous des régimes fascistes, sous Mussolini en Italie, avec des villages tels que Sabaudia, qui sont sortis de terre un petit peu du jour au lendemain. Il y a également l'impulsion fasciste franquiste en Espagne, qui a aussi vu voir l'établissement en fait, de tout nouveau village moderne également. Il y a la question de la planification, la question de la grille, du découpage des territoires en terres, d'une part agricoles, et également le découpage des zones d'habitation. Ça, c'est quelque chose qu'on voyait dans les villes, mais qu'on a aussi vu à l'échelle plus rurale. On appelle ça le zoning, c'est-à-dire qu'on établit sur un plan, de manière globale, quelles sont les zones dans lesquelles certaines activités vont se retrouver. Donc, il y a d'une part le tissu un peu plus résidentiel, et puis d'autre part, les équipements plutôt publics, où on retrouvera des maisons de jeunesse, des maisons communales, pour pouvoir rassembler les gens dans le même endroit. Il y a une partie plus productive, où là on peut retrouver quelques industries parfois. Et puis il y a aussi, dans certains cas, des activités plutôt récréatives, loisirs, sport, etc.
La ville, tout comme Kuytering, que la ville, c'est vraiment un laboratoire. Hein, on peut vraiment voir aussi Bruxelles, mais beaucoup d'autres villes, comme des laboratoires urbains. Et c'est le point de départ de l'exposition de Modern Landscape, où ils vont vraiment vouloir retracer cette histoire du paysage urbain et ce qu'on appelait encore hier la modernité. Et aujourd'hui, avec l'impact climatique et tous les changements qu'ils font avec les malaises qui entrent dans les villes, les aménagements urbains qui sont en train de changer, il y a des grands contrastes et contextes idéologiques qui sont en train de changer.
Et ce découpage territorial n'existait pas avant l'apparition de ces régimes politiques dans cette Europe où nous sommes.
Il a toujours existé au sein des villes, parce qu'on sait que les villes sont le produit d'envies politiques. Mais ça, ça fait déjà depuis la Grèce et les Romains que c'est le cas. Mais en effet, c'est la première fois qu'il y a une telle envie presque de domination du politique sur des territoires ruraux. Et évidemment, ça ne vient pas de nulle part. On se rend compte encore aujourd'hui, même aujourd'hui presque plus que jamais, à quel point les territoires ruraux possèdent un impact sur les questions politiques, économiques et sociales à l'échelle d'un pays. Francel Kahn.
Francel Kahn, la question de la mécanisation n'a-t-elle pas influé sur la question du paysage ?
Évidemment. On a commencé à créer des machines pour pouvoir créer des tranchées, pour pouvoir implanter des infrastructures phénoménales, de béton, très souvent, à très très grande échelle, à l'échelle territoriale. Et c'est aussi cette mécanisation qui a permis l'accélération à un moment donné, que ce soit pour les infrastructures, mais également pour l'agriculture, d'avancer, de ronger davantage encore les territoires ruraux, au-delà des villes. Je pense qu'on peut dire qu'en effet, le territoire américain est déjà assez marqué par cela. On a notamment, au travers de l'exposition, des artefacts qui sortent de la recherche purement académique, qui sont venus s'ajouter pour pouvoir faire un petit peu écho aux pièces qui étaient déjà présentées dans l'exposition. Et on a par exemple cette photographie du photographe Lewis Baltz. C'est une photographie en noir et blanc qui présente un paysage marqué par, basiquement, une boîte qui est celle d'un bâtiment industriel en plein milieu du Colorado, qui montre aussi l'impact que toute cette, entre guillemets, modernisation des territoires a eu sur le paysage et qui aujourd'hui, bien sûr, est l'héritage et qui amène à réfléchir aussi sur ce qui a été fait auparavant et ce que l'on doit faire aujourd'hui avec, si je peux dire, presque cette ruine du monde moderne dans notre monde contemporain.
C'est Georges qui est venu me trouver pour me proposer d'intervenir dans la cantine des bureaux Yoda et de faire une intégration pérenne dans cet espace.
Liège, à la galerie Yoko Yoda, George Janssens, du 19 au 23 décembre. avec Georges Yoda, Claude Laurent, George Janssens.
Le titre de l'installation va devenir Voyage, parce qu'on voyage à travers la nourriture, on découvre les ingrédients qui sont dans les plats, et en même temps, c'est presque un départ d'un voyage. Quoi.
Claude Laurent, qui est Josse Janssens?
J'ai choisi de mettre tous les murs en jaune d'or pour avoir cette chaleur et de proposer X nombre de points de vue au personnel des bureaux Yoda. Quoi. Donc ce qui m'a apporté, c'est qu'il y ait cette possibilité, comme on a une seule table avec X nombre de chaises qui se trouvent dans le centre de cette cantine, et on ne s'assoit pas forcément au même endroit, ça dépend les premiers arrivés qui sont installés, et donc d'avoir la possibilité d'avoir plusieurs angles de vue sur ce qui est proposé au mur, comme différentes petites histoires, micro-histoires, qui est donné à voir. Avec toujours des miroirs, parce que les miroirs, non seulement ça agrandit l'espace, mais en même temps c'est un médium que je travaille depuis très très longtemps sur X nombre de niveaux de lecture.
Janssens est un plasticien bruxellois, réalisé pas mal d'expositions, en Belgique principalement, qui a, je dirais, presque une spécialité, c'est de réaliser, quand on l'invite quelque part, d'essayer de voir s'il y a moyen de travailler sur le site même. Il analyse les sites dans lesquels il se trouve, il fait des recherches, il essaye de s'imprégner. Il est l'auteur de réalisations. J'aime pas tellement le mot installation, c'est pour ça que je cherche un petit peu, mais c'est plus pour là une réalisation complète sur le site même, qui est parfois éphémère, qui est parfois pérenne, comme c'est le cas ici pour la cantine.
Dans le fond de la salle, quatre miroirs avec quatre portraits, symbolisation d'un côté universel, vu que les personnages sont issus de différents continents, comme du son qui sortirait de leur bouche. Cette petite phrase est tout simplement une private joke qui dit « bon appétit ».
En dehors de ça, je dirais que c'est un artiste conceptuel qui travaille sur l'image. Il apprend à regarder les images, à les décoder, et lui, il les transforme. À partir de ces images, il les retravaille et il fait en sorte que l'on regarde à la fois l'image, mais que l'on se pose un certain nombre de questions que lui instille dans ces images. Questionner, faire voir, faire percevoir, prendre un détail, et à partir de là, faire en sorte que l'on s'interroge sur les réalités ou la fiction. Parfois, les deux se rejoignent.
Trois projets qui ont été soumis aux frères Yoda. Et dans un des projets, il y avait déjà des noms de villes. À partir d'un nom de ville, on a un voyage de la ville et peut-être une expérience de cette ville. Et donc, de cette ville, peut-être un mets particulier à cette ville. Quoi. Donc, on a Londres, New York, Tripoli, Kiev, Alger, Copenhague. Donc, j'avais toute une série de villes que j'avais proposées. Et après, Stéphane Yoda était très intéressé par ça parce qu'il a des activités internationales et qu'il voyage beaucoup. Et donc, des noms de villes sont venus se greffer en regard de sa propre expérience.
L'artiste vient de décrire ce qui était fait dans le réfectoire ou la oui. cuisine, dans les bureaux des établissements Yoda.
Je pense que la commande qui a été faite par les collectionneurs de travailler sur la cantine est déjà assez significative, parce que la cantine, c'est pas le lieu de travail, c'est le lieu où l'on s'extrait du travail. Il y a une chose qui m'a frappé depuis un petit temps, je n'avais pas remarqué au début. Mais cette cantine, très lumineuse, très solaire, très agréable à vivre, mais quand on regarde vers la rue, il y a des fenêtres et il y a des grillages aux fenêtres. La protection, la sécurité, c'est une maison ancienne, enfin bon, voilà. Et Joss dans son intervention, pour moi, justement, c'est comme s'il enlevait ces grilles, ces zones de protection.
Art nouveau belge, Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, établissement Yoda, Liège. Et vous allez nous montrer, Claude Laurent, des relations.
À partir du travail donc réalisé pour la cantine, j'ai essayé de repérer quelques thématiques. Je les veux très libres, si vous voulez. Je ne veux pas donner trop de directions. Ce sont plutôt des pistes de regard. Il y a le jaune, il y a les phrases qui sont là, il y a des lieux, comme il l'a dit. On est dans une cantine, donc c'est un endroit où on mange. Il travaille le miroir. Et justement, si on regarde le bureau ici, il y a trois œuvres de la collection que j'ai extraites, si vous voulez, de la collection pour bien montrer qu'il y a un lien entre le travail de la cantine et justement des œuvres de la collection. Là devant nous, on a une œuvre de Kader Atiya. Ce sont des miroirs retournés. George Jensen, il travaille le miroir, mais il travaille le miroir de face, avec des fleurs, avec des mots, etc. Ici, c'est l'envers du miroir. Là, on peut y aller dans la littérature, ça ne manque pas, l'envers du miroir. C'est un petit peu comme si on révélait ce qui n'est pas montré chez George Jensen, l'autre côté.
Alors, comme on est dans une cuisine, ben, j'ai placé une énorme fourchette, avec une petite phrase qui est dessus, qui dit « Eat to live, not live to eat », « Mange pour vivre et pas vie pour manger ».
Une autre œuvre plus ancienne, c'est un Schnabel. Que trouve-t-on chez Schnabel ? Un personnage, un portrait. Le portrait est présent dans l'œuvre de John Jensen, il est présent là, mais un portrait qui est entouré de quoi ? D'assiettes. Ah, celles-là sont cassées, c'est une peinture, mais on est dans cet univers. Si on se retourne, que trouve-t-on ? Une œuvre de Gilbert and George, et quel est le mot que l'on retrouve dans l'ensemble de l'œuvre ? London, on est à Londres, avec toutes les questions que posent les deux artistes. Or, dans l'œuvre de George Jensen, parmi les destinations possibles, il y a Londres. C'est ce genre de rapport que j'ai essayé d'établir entre des œuvres de la collection et l'œuvre. Pour montrer quoi ? Mais d'abord parce que ça m'a frappé qu'il y avait ces relations entre une commande et des œuvres de la collection qui parfois datent des années 80, certaines œuvres. J'y vois
Claude Laurent.
Le phénomène que comment se constitue une collection ? Comment achète-t-on ? On peut dire, tiens, c'est assez disparate, il n'y a pas une ligne de conduite. Non, mais en même temps, en faisant cette analyse, en constatant que la commande qui a été faite à George Jensen correspond à pas mal d'œuvres qui sont dans la collection, moi, je me dis qu'il doit avoir un fil rouge, là, conscient, pas conscient. Des choix, d'une certaine façon, qui correspondent à une sensibilité, à des idées, une manière de voir le monde, une manière de voir l'art.
Avec toute une série de strass, comme des choses qui brillent et qui fait un écho à ce qui est marqué sur un autre mur qui dit « Stay hungry », reste affamé, quoi, en doré et qui coule.
Voilà, c'est ce genre de relation que je souhaite libre. Chacun va lire l'œuvre de George Jensen à sa manière, avec ses acquis, avec sa culture, avec sa sensibilité, avec ses émotions, etc. Et va retrouver, à travers un certain nombre d'œuvres de la collection, des correspondances qu'il va établir.
Donc, reste affamé, mais sur de nouveau plusieurs niveaux de lecture, quoi.
Réponse à ce que Claude Laurent vient d'évoquer.
Non, mais je pense que son analyse est bonne, parce que déjà, Laurent Buzyn, quand il a exposé, je ne sais plus, c'est dans les années
91,
enfin, pas les années 80, le 91, et dans l'interview qu'il faisait, il disait que oui, quelque part, il y a une certaine de la sensibilité, je recherche la poésie et même l'affect, et que sans savoir, parce que moi je vais sur des chemins évidemment totalement différents, et c'est vrai qu'à cette époque, il y en avait, je veux dire, les 3C, Gucci, Clemente, Kia,
oui.
Uren, Mosse, Parmentier, Toroni, enfin, et au niveau des Allemands, enfin, un peu à support surface, l'Arte Povera, etc. Et finalement, ben, il trouvait aussi que quelque part dans les œuvres, ben, sans le savoir, finalement, sans le savoir, parce que c'est pas du tout une recherche. Moi, je recherche un petit peu, elle est très diversifiée, la collection. Donc, sans le savoir, mais il y avait un fil, une espèce de fil conducteur. Donc, je suis assez d'accord avec l'analyse de...
Liège, à la galerie Yoko Yoda, Josh Janssens, du 19 au 23 décembre. Avec Georges Yoda, Claude Laurent, Josh Janssens.
Je peux me permettre, au niveau de la collection, il y a une chose qui m'a frappé. Je connaissais un peu la collection, puis bon, je l'ai étudiée beaucoup plus en profondeur. Et j'ai trouvé trois points. D'abord, cette collection, elle est internationale. Au niveau des artistes comme Gilbert and George, Atiya et bien d'autres. Une deuxième chose, elle est belge, avec des artistes belges plus ou moins réputés, mais certains très réputés. Et une troisième chose, elle est liégeoise, avec un soutien réel. Parce qu'il y a, à des artistes liégeois, il y a 10, 12, 15 œuvres de tel artiste, de tel autre artiste, de tel autre artiste. Et ça, moi, je trouve que c'est une richesse qu'on rencontre très peu dans les collections, que ce soit chez nous ou à l'étranger. Voilà, ce lien entre les trois. De mon point de vue, c'est une richesse parce qu'il y a un regard local, un regard international, et tout ça se mélange. C'est une richesse pour les artistes, qu'ils soient liégeois ou autres. Il y a cette confrontation permanente, et on s'aperçoit quand même que le niveau de qualité, eh bien, franchement, il est au même niveau. Et il y a un côté mécénat. Quand un collectionneur décide d'acheter 10, 12, 15 œuvres, peut-être plus, de tel ou tel artiste, qui n'est pas nécessairement une vedette, qui n'est pas nécessairement le plus connu, c'est soutenir le travail d'un artiste, c'est l'aider, c'est lui dire, bon, continue, vas-y, moi je soutiens. Et ça, je trouve ça assez remarquable, je dois dire. Zorio, le titre, ou en tout cas c'est la purification de la parole. Quand je pense au travail de George Janssen, où les écrits sont importants, la résonance des écrits est importante, je vois cette œuvre-là, je me dis, mais oui, la purification de la parole, voilà, il y a une correspondance, il y a un lien tout à fait évident. Chacun va l'interpréter, mais ce lien, pour moi, il est tout à fait évident. Or, c'est une œuvre de 85, je veux dire, le temps ne compte pas. Ça se mélange. Ça, c'est une œuvre de Jean-François Victor de 2007. C'est blanc sur blanc. Le travail de George Janssen, souvent, c'est un miroir ou du blanc avec une écriture. Il faut trouver l'angle pour pouvoir lire. Donc, il y a la question de la perception qui est là. Que perçoit-on? À quel moment? Comment? Et on retrouve le même principe ici, avec de nouveau une phrase qui pose question, évidemment. Et la question, ça c'est 80% du travail de George Janssen. Un autre type de rapport, il est à la fois formel, il est dans le sens de l'œuvre, il est esthétique, l'écriture, le graphisme par exemple. Le choix du graphisme dans les œuvres de George est vraiment très important, toujours très soigné. Le graphisme choisi est aussi en rapport avec le sens de l'œuvre qu'il va vouloir donner. Je sais plus ce qui. Par rapport au phénomène du bien-être, des vacances, de l'évasion, du voyage, là on a une série de photos qui évoquent les vacances, qui évoquent le bien-être, c'est la détente. C'est...
Art nouveau belge, Palais des Beaux-Arts, Bruxelles. Établissement Yoda, Liège.
Là, on a un rapport simplement bien-être. On se dit, tiens, à quoi rêve-t-on? Ah, je partirais bien en vacances. On a là une suite de propositions de photos splendides.
Art nouveau belge. Vers l'idéal. Ouvrage paru avec Jonathan Mangelings et Françoise Aubry.
Voilà un des artistes liégeois qui est énormément soutenu par les collectionneurs. 10, 12, 15 heures, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, une action de mon point de vue de mécénat.
Bruxelles, Palais des Beaux-Arts. Sophie Lowers. Yves Zustrasse jusqu'au 12 janvier. avec Yves Lustras et Olivier Kepler.
Voilà à nouveau une attache liégeoise. La salle s'appelle Jacques Isoar. S'il y a bien quelqu'un de liégeois qui est reconnu sur le plan littéraire, sur le plan, c'est un vrai intellectuel. Et il y a un portrait ici. Donc là, on est à nouveau dans le portrait, dans la représentation, dans la présence humaine. L'aspect humain est aussi un aspect très important, présent tout le temps dans l'œuvre de George Jensen, ce qui est humain. À côté de ce qui est social, sociétal et politique.
À Cross jusqu'au 26 janvier, avec Sophie Dequeny et Elisa de Vichère.
Voilà une œuvre de Jacques Charrier, qui me paraît mais tout à fait emblématique de ce qu'est la collection, de ce qu'est, du rapport avec le travail de Joss, de ce qu'est un collectionneur, si on regarde. Bon, il y a sur le portrait, il y a les assiettes, une certaine préciosité. Quand on regarde, il est marqué la collection, l'art, le marché. On est chez les collectionneurs, c'est presque un résumé du lieu dans lequel on se trouve, du lieu dans lequel se trouve la collection, du travail des collectionneurs, du travail de l'artiste. Charlier posait question.
Enter the Balance Landscape, jusqu'au 12 janvier. Avec France Elkan, Liège, à la galerie Yoko Yoda, George Janssens, du 19 au 23 décembre. Avec George Yoda, Claude Laurent, George Janssens. Le Monde Invisible est une émission de Thierry Genicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.